Vous écoutez
RMC. C'est 18h-20h. Rotten sans flamme. Intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
Heure de Rotten sans flamme du soir avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry, avec Benoît Boutron en mode marocain. Et oui, il a la casquette du Maroc.
Et tout droit pour
le choisi. Il a choisi son camp. J'espère que ça va durer parce que ça peut s'arrêter vite quand même. Hein.
Alors moi, j'ai vu le champion du monde.
Bon, on a passé une excellente première heure. Remercie Christian Benteke d'être venu nous donner ses impressions sur la Belgique. C'était très agréable de l'avoir. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast. Abonnez-vous à la chaîne Rotten sans flamme. Mais surtout, vous restez avec nous parce que déjà, il y a un live. Il y a l'Espagne qui va reprendre contre le Cap-Vert la deuxième mi-temps. Ça va le coup d'envoi dans un instant. Mmh. Et puis surtout, il y a encore des bons thèmes.
Jérôme, on rappelle que pendant toute la Coupe du Monde, on est en direct de la brasserie Flora en plein cœur de Paris sur les grands boulevards dans le 9e arrondissement. D'ailleurs, venez assister aux émissions de Rotem sans flamme. Venez notamment mercredi, et je m'adresse aux supporters notamment de la RDC qui seront avec nous également du Portugal. On va suivre les matchs en direct. Donc si vous voulez venir suivre les matchs avec nous, le Portugal, la RDC, vous venez.
Un des favoris de la Coupe du Monde, le Portugal.
À cette rencontre à la brasserie Flora dans le 9e.
Obrigado.
Un magnifique cadeau dans Rotten sans flamme toute cette semaine à 19h45. Un téléviseur Philips 50 plus 9000. Immersion totale avec une image fluide et détaillée.
Magnifique.
Pour remporter votre téléviseur 3216 touche 4 ou quiz au 7-32-16. À 19h30.
On peut en avoir une.
La VAR, tu demanderas à tes patrons. Faut-il déjà enterrer le Brésil après ce match nul face au Maroc, un but partout. Et puis le direct, on l'a dit, Edgar Grolot, ça vient de repartir entre l'Espagne et le Cap-Vert à Atlanta.
Ouais, c'est parti il y a quelques secondes, les Espagnols qui ont, comme depuis le début de ce match, hein, la possession qui tourne autour de la surface de réparation cavardienne, mais qui vont espérer cette fois trouver la faille, puisque pour l'instant, après 46 minutes de jeu bientôt, 0-0 toujours entre l'Espagne et le Cap-Vert.
Merci Edgar, 19h07 sur RMC, actu de la Coupe du Monde avec cet avenir plus qu'incertain pour Sabri Lamouchi, sélectionneur français de la Tunisie. Lourde défaite des Tunisiens 5-1 la nuit dernière face à la Suède, la plus large défaite de l'histoire de la Tunisie en Coupe du Monde. Parlons-en avec Aurélien Tiercin qui nous rejoint. Salut Aurélien.
Salut Aurélien.
Salut les amis, salut à tous.
Bonsoir. Les heures de Lamouchi à la tête de la Tunisie sont comptées a priori, hein.
Ouais. Là, c'est pas encore officiel. La fédération tunisienne de football n'a encore rien officialisé en public, mais il y a plus vraiment de doute. Sabri Lamouchi va être viré après un seul match de Coupe du Monde. Après donc cette défaite 5-1 contre la Suède, mais le problème, il remonte un petit peu parce qu'ils avaient déjà pris 5-0.
Ça fait suite à déjà des défaites. Oui.
Oui. Exactement. En amical et tout contre la Belgique.
En 5 matchs, une belle victoire, pige. Un nul, 3 défaites. Il a pris 10 buts en 2 matchs. Et on peut écouter d'ailleurs Sabri Lamouchi un petit peu désarçonné après la lourde défaite d'hier face à la Suède.
C'est une lourde défaite, effectivement. C'est une défaite qui fait mal. De rentrer dans la compétition avec une lourde défaite comme celle-ci est effectivement impactant. On doit avoir une prise de conscience. On ne peut pas se tirer une balle dans la jambe avec des erreurs qui sont simples à éviter. À ce niveau-là, c'est impardonnable.
Ouais. Voilà, donc ça a été impactant contre Sabri Lamouchi, évidemment. La prise de conscience, ce sont les dirigeants tunisiens qui l'ont eu. Ce sera Monder Kebayer, ancien sélectionneur de la Tunisie il y a quelques années, qui avait emmené les Aigles de Carthage en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était il y a 6-7 ans, si je ne dis pas de bêtises de mémoire. Donc Monder Kebayer, il y a eu aussi le nom de Wabi Kazri qui a circulé, pourquoi pas, pour reprendre la sélection. Mais à 99%, c'est déjà terminé pour Sabri Lamouchi. Faut se rappeler qu'il y a quelques mois, on parlait même de Franck Hez qui avait été contacté par les dirigeants tunisiens pour diriger cette équipe pendant la Coupe du Monde.
Comment vous réagissez? Vous le connaissez bien, notamment toi, Duga. Lamouchi viré après un match seulement dirigé avec la Tunisie en Coupe du Monde, c'est terrible pour lui.
Oui, non, mais c'est cruel, bien évidemment que c'est cruel, parce que comme tu le disais, comme on l'a dit depuis le début, avec la nouvelle formule, tout est encore possible. Mais bon, il y a une réalité aussi du terrain. Quand tu prends 10 buts en 2 matchs, je crois qu'ils ont pris aussi, enfin, ils ont perdu face à l'Autriche aussi, ils en ont pris aussi pas mal en match de préparation. Bon, voilà, on sent quand même, quand tu prends 10 buts en 2 matchs, on a le sentiment que ça laisse, et je me mets à la place des dirigeants, c'est que t'as le sentiment qu'il y a peut-être une cassure entre les joueurs et traîneurs. Ça paraît tellement gros quand même, sur un match quand même important pour les matchs de la compétition. compte, t'en prends 5, même si l'adversaire t'est supérieur. Enfin, c'est inimaginable. Enfin, regarde le Cap Vert, regarde les Haïti, quand t'as pris qu'un contre l'Écosse. Enfin, tu ressembles à quoi? 5 buts comme ça en ouverture de t'as pas joué la France, t'as pas joué l'Espagne, t'as pas joué l'Allemagne, t'as pas joué un Cador en plus. T'as joué une bonne équipe, mais t'as pas joué un Cador non plus. Donc je peux comprendre aussi l'inquiétude des dirigeants. Après c'est cruel pour Sabri, c'est sûr que j'ai beaucoup de peine pour lui, ça c'est sûr.
Ouais, et puis surtout moi je suis d'accord avec ce que tu dis Duga, mais la réaction de Sabri Lamouchi, alors je veux bien que t'as la tête dans le seau après avoir pris encore une fois 5 buts hier, mais quand même tu vois la façon de t'exprimer.
Il est
complètement KO.
Je pense qu'il est un peu KO.
Et donc j'imagine que les dirigeants, quand t'entends ça, tu te dis, écoute, là il faut peut-être un choc psychologique. Je veux bien que tu gagnes un match, juste un match, même si t'en as pris 5 sur le premier match, tu gagnes un match, tu peux te sortir et qualifier ton équipe en 16e de finale. Mais là, la réaction, elle doit avoir lieu. Je sais pas.
Quel métier quand même, hein, franchement. Ouais. Moi, en plus Sabri, ouais, c'est des potes avec qui on a joué. Oui. Il y en a plein de potes qui sont entraîneurs, franchement.
Ils font pas un métier facile.
Et le nôtre est plus facile quand même. Hein.
Tu rêves de faire une Coupe du Monde et dès le premier match,
tu prends 5 contre la Suède, contre les Pays-Bas et contre le Japon, tu vas faire quoi
c'est les deux prochains matchs.
Le groupe, il est dur. Hein. Le groupe, là, par contre.
C'est rarissime de se faire virer pendant une Coupe du Monde, hein, messieurs. Ouais, c'est arrivé déjà en Tunisie, Henri Kasperzak en 98. D'ailleurs, pendant le Mondial 98, l'Arabie Saoudite aussi et la Corée du Sud avaient changé de sélectionneur. Mais vraiment, c'est rarissime de partir pendant une phase de poule. Et à rappeler que c'est la différence de but générale qui compte. Hein, donc le moins 4, il fait très très mal. Hein. Là,
ouais, il fait mal.
Quand même, pour faire partie des 8 meilleurs 3e, ça sera compliqué quand même.
Bon, merci. Genesio est libre. Hein,
les infos à retrouver sur mcsport.fr. Laisse Genesio où il est et où il sera d'ici quelques jours. 0-0 toujours entre l'Espagne et le Cap Vert.
Eric, je voulais te reprendre, mais on fait pas métier facile. Hein. Tu dis facile.
Ah, c'est dur. Vous engagez.
Ah oui, c'est dur.
Non, mais vous bossez du matin au soir. Après, vous donnez votre avis.
Il y a un million d'auditeurs qui nous écoutent tous les soirs.
Physiquement, d'ailleurs.
On peut pas faire d'erreur.
Non, mais le problème, c'est que si tu bosses trop, c'est que tu n'es pas compétent.
Ouais.
C'est que tu n'as pas compris en tant que consultant.
Ah,
non, c'est vous, les journalistes, qui devez bosser.
Ah oui, d'accord.
Mais le consultant, il est là pour faire passer son vécu, son expérience, sa vision.
Donc je dis à tous les Diawara d'arrêter de faire ses fiches.
Duga, je sais que tu bosses pas. Mais non, mais si vous voulez, on peut faire le débat. Moi, quand je commentais, et Duga, il va être d'accord avec moi parce que c'était vraiment l'école Canal Plus.
Ouais.
Parce qu'avec les sujets pourris qui nous sortent tous les jours,
c'est sûr que moi, je bosse. Ah ouais, matin, au soir, même la nuit.
Il a un peu moins de fiches que Souley Diawara, mais il en a quand même.
Duga, je sais qu'il le faisait pas, mais moi, j'étais fasciné quand je voyais arriver les consultants
avec des fiches,
avec c'était la mode à Canal, avec les autocollants, les mecs, les noms, les nombres de matchs et tout. Mais c'est le travail du journaliste, ça.
Ça c'est
parce que si tu prends le consultant pour qu'il te dise.
Et Dieu sait qu'on l'aime,
si tu prends.
Et alors, il est investi.
Non, mais Daniel Bravo, il fait ça. Pourquoi il se trompe autant sur les joueurs?
Si tu prends le consultant pour qu'il te donne le nombre de matchs et le nombre de buts qu'il a marqué, c'est le travail d'un journaliste, ça.
Ok.
Le consultant, il est là pour.
Donc le consultant, il regarde dans les poches, il dit ah oui, la passe est réussie.
Ah non.
Bravo.
Non.
Et ben on embrasse Daniel Bravo qui fait des fiches.
Le consultant, il est là pour regarder.
Super.
Pour regarder beaucoup de matchs. Et pour faire passer son vécu et son expertise.
Le but d'un consultant, c'est d'être pertinent et d'être piquant sur les débats. Ouais. Et on y va sur l'équipe de France, justement.
Pas avoir peur de dire les choses.
Écoutez, lui sera un excellent consultant, le capitaine Mbappé, qui juge ses coéquipiers. Écoutez.
Capitaine en flamme, tu n'es pas de notre galaxie.
Être le capitaine d'une équipe est un symbole.
Marcus, ouais, c'est le pire. 100%.
C'est le signe du leader de l'équipe, de la maturité et du respect.
Ousmane, en dehors du terrain, on a fait tous les 400 coups ensemble.
Il connaît ses coéquipiers par cœur et sait comment parler à chacun d'eux.
Ryan, tu le connais aussi depuis longtemps. Ça va être un joueur très important pour nous et j'ai beaucoup d'affection pour lui.
Le capitaine incarne la figure de puissance avec de grandes responsabilités.
Marnes, j'ai pas mal d'affection pour lui. C'est quelqu'un qui a une certaine timidité, mais en quelqu'un qui est brillant.
Il ne doit pas ordonner à ses coéquipiers, mais plutôt les guider au travers de son comportement exemplaire.
Et Kamal, il est en vacances déjà.
Mais ça, pour le savoir et le mettre en place, il faudrait déjà avoir des gens qui ont les compétences pour ça.
Aurélien, vice-capitaine. Je le connaissais un petit peu en sélection avant. J'ai vraiment appris à le connaître à Madrid. Super gars. C'est un type très intelligent.
Toutes les critiques qu'il a pu avoir pendant toute cette saison, je pense qu'il va bien les taire.
RMC Intégrale Coupe du Monde.
Et oui, la troisième Coupe du Monde qui démarre demain pour Mbappé. La première en tant que capitaine, c'était le petit jeune en 2018.
Ah, lui, il a sur une autre galaxie en
2022. Il a accordé une interview aux Parisiens. Il répondait aux questions de ses coéquipiers. Il avait ce petit commentaire pour chaque coéquipier.
Ah, bah oui,
c'était assez succulent. Parlons-en avec Fabrice Hawkins qui est à New York pour RMC Sport. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut Fab.
Fabrice, parle-nous de l'importance de Mbappé.
Attention, toi aussi, il va te juger.
Dans la vie de groupe.
Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même une différence entre la perception globale que le grand public a de Kylian Mbappé, ce joueur qui peut parfois être égocentré, vraiment tourné vers lui.
Ah bon ?
Et ce qu'il est dans le groupe, en tout cas la manière dont il est perçu par les joueurs, par la majorité d'entre eux, c'est pas de dire qu'il est aimé, adulé par tous les joueurs, mais il est quand même apprécié. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui défend ce groupe-là, ces joueurs. On l'a vu à de nombreuses reprises quand il allait négocier avec le président de la Fédération Française de Football les droits à l'image, les primes encore, hein, juste avant ce mondial. Et puis, vous avez commencé, surtout vous, les anciens joueurs, quand il y a des petites demandes comme ça à faire aux sélectionneurs, et ben, généralement, les joueurs se tournent vers Kylian Mbappé quand il y a un jour off à demander, par exemple, même des consignes parfois dans le jeu. Ils savent que c'est beaucoup plus facile si ça passe par Kylian Mbappé. Et puis, il y a cet aspect médiatique, son rôle de représentation du groupe devant la presse, là c'est quand même plus compliqué. On savait qu'il parlerait moins, on savait que ce serait pas le même capitana que celui d'Hugo Lloris, et ça n'a pas manqué. On le voit quand même relativement moins que Hugo Lloris, donc en conférence de presse il ne l'était pas tout à l'heure devant nous les médias, et Didier Deschamps en a parlé justement de ce rôle.
Évidemment que Kylian a une renommée mondiale, donc c'est sa vie, c'est lui qui gère. Le fait qu'il soit pas venu aujourd'hui, c'est pas cette raison-là. Et moi, mon objectif premier, c'est de protéger les joueurs. Et sincèrement, ce matin, avant de partir, j'ai vu 3 joueurs sur 26 avant mon départ. Mais je me plains pas. On est à 24 heures d'un match. Kylian, c'est Kylian, quoi qu'il fasse, bien ou moins bien pour certains. Il est adulé par les jeunes, les moins jeunes, après qu'il veuille pas être président. Je pense pas que ça se fasse un objectif, mais il a une cote de popularité mondiale, il vit avec ça, il le sait, c'est pas pour ça qu'il est pas naturel, la responsabilité qu'il a aussi et qu'il assume totalement en tant que capitaine.
Voilà, donc prochain rendez-vous avec les médias en ce qui concerne Kylian Mbappé, a priori ce sera dimanche avant le deuxième match contre l'Irak.
Merci Fabrice. Roten se chauffe ce soir. Est-ce que Mbappé est devenu un bon capitaine? 32-16 pour participer avec nous. Avant l'avis de Jérôme, d'Eric et de Duga, le point sur le match en cours entre l'Espagne et le Cap-Vert. 56 minutes, toujours pas de but, Edgar.
Oui, toujours 0-0 et l'occasion à l'instant pour l'Espagne avec Fabián Ruiz qui avait dévié un ballon de la tête mais directement une nouvelle fois dans les bras de Vosinha. Je pense que si l'Espagne ne marque pas, le MVP, l'homme du match, on le tient et il a 40 ans.
Ah oui.
Mais les Espagnols qui ont... alors il y avait eu un gros temps fort en fin de première période, mais là depuis la reprise en seconde période c'est plus compliqué. On est de retour à une possession un petit peu stérile pour les Espagnols qui ont tout le mal du monde à contourner surtout la défense centrale du Cap-Vert, extrêmement solide et qui, sauf quelques petites erreurs de relance, ne laisse quasiment rien aux Espagnols depuis le coup d'envoi de ce match. 57 minutes de jeu ici à Atlanta, 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert.
Et voilà, c'est vraiment tout droit pour l'équipe de France cette Coupe du Monde.
Ouais, on ne craint rien.
Ils n'arrivent pas à battre le Cap-Vert.
Mais alors, en 2010, l'Espagne, la fameuse Espagne qu'on se souvient comme l'une des meilleures équipes de tous les temps, elle avait perdu son premier match face à la Suisse.
Ouais, super. Bah écoute.
Ah donc il vaut mieux le perdre.
Voilà. Espérons qu'on puisse perdre alors contre le Sénégal demain. Merci Edgar. Jérôme, est-ce que Mbappé est devenu un bon capitaine alors?
Ah ben j'en sais rien moi. Si c'est devenu un bon capitaine, j'y suis pas tous les jours. Je suis pas au quotidien avec le groupe. Il y a juste à entendre les joueurs. A priori, et ce que dit Fabrice aussi, c'est que ils se plaignent pas de la présence de Kylian. Donc ça c'est déjà bon signe. Que le sélectionneur est très content d'avoir Kylian Mbappé comme sélectionneur, capitaine. excuse-moi, ouais, bon ça va peut-être arriver.
C'est peut-être lui le futur sélectionneur.
Ouais,
peut-être.
Il est
sélectionneur joueur, on l'a jamais vu.
Il est peut-être déjà sur certains choix. mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant de le juger, moi, bon capitaine ou pas, j'en ai rien à faire. Je veux juste juger Mbappé sur sa Coupe du Monde. Il l'a déjà fait, il nous a déjà emmené très haut, et c'est bien là. Le plus important, c'est qu'il soit efficace, qu'il soit bon, et qu'il aide les autres en tant que capitaine et leader de cette équipe, les autres à être bien meilleurs. Voilà, c'est tout. Une fois que tu as dit ça, il va être tourné vers le collectif parce que automatiquement un capitaine doit aussi rassembler. A priori, tout le monde est unanime dans le groupe pour dire que Kylian est très bien dans son attitude et tout ça. Après, ça c'est le terrain et c'est moi ce qui m'importe. Et c'est pour ça qu'on fait l'émission tous les jours, qu'on va faire des débriefs sur les matchs de l'équipe de France, à commencer par mercredi, après le match de demain, et que j'espère qu'on dira le plus grand bien de Kylian Mbappé là où on l'attend.
Toi, tu veux un joueur exemplaire sur le terrain.
Après, déjà. Franchement, ce qui se passe en dehors, je te trouve lunaire. Je trouve lunaire les déclarations qu'il peut avoir par moment sur ses coéquipiers. Je trouve lunaire le fait qu'il dépasse son rôle de capitaine et de leader technique et leader de terrain. C'est qu'il va t'expliquer, ouais, ben lui, il faut que je lui donne confiance. Lui, dans la vie, il est bien. Lui, ceci, il donne des notes. Alors pour moi, excuse-moi, mais on n'en a rien à faire de tout ça. En fait, alors après, je veux bien
c'est
que
le journaliste qui pose la question.
Oui, d'accord, mais bon, il n'est pas obligé de répondre. Là, l'affaire de Didier Deschamps qui le protège, comme il dit, le capitaine, il vient toujours en surtout après le avant le premier match de la
si
Coupe
du
Monde.
Si vous voulez le protéger, il fallait pas le capitaine.
Donc bah oui, non, mais il le protège, c'est ce qu'il lui dit. Donc il le protège parce que il y a une demi-heure de route, parce que ceci cela. Non, mais arrêtez vos bêtises. Tiens, mais on en est où là? Non, mais franchement, non. Donc pour moi, c'est lunaire. Et puis après, c'est tellement aujourd'hui où ça perd sa spontanéité, ses réponses. Tout est calculé. Du moins, ils essayent de calculer parce qu'il y a une certaine forme d'intelligence qui se met en place. Et pour moi, on est à la limite par moment, même trop, tu vois. Trop de calculs. Tu le calcules. Ah ben non, plus du tout. Ouais. Plus du tout. Tout est. Voilà. Vous l'avez vu l'interview qu'il a fait avant de partir à la Coupe du Monde avec,
sur M6.
Sur M6. Ouais. Ah ben il est très bien luné. Très bien, il chambre les journalistes, il n'y a pas de souci. Mais il a toujours ce côté un petit peu hautain. Bon, il s'aime beaucoup, Kylian, ça on le sait très bien. Mais je trouve que là, ça prend le dessus. Ça comme prend le dessus là, sur cet ego qui est surdimensionné.
Qu'en pense l'ancien capitaine des Bleus, Eric Dimeco, là?
Comment savoir si c'est un bon capitaine? Parce que le bon capitaine, en réalité, c'est dans le vestiaire.
Ben
c'est,
oui, voilà. Sur le terrain.
Donc moi, les déclarations qu'il fait, parce que les journalistes veulent faire un petit jeu avec lui, sa com qui est toujours plus ou moins contrôlée, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ce serait bien de poser la question, mais le problème... Le
vestiaire... Après, tu as un peu de recul. Hein. Il est capitaine depuis que Lloris s'est arrêté en 2022. Donc ça fait
oui,
un moment quand même.
Et alors?
Eh ben, t'as un peu de recul sur son rôle de capitaine. Tu vois bien ce que représente le groupe, etc.
Oui, non, mais
est-ce que c'est un bon leader de groupe?
Tu peux évoluer.
Pas en Azerbaïdjan, mais sinon, ça va. Voilà.
Tu peux évoluer, justement.
Ouais. C'est pour ça que
j'ai pas l'impression que ça a été naturel et inné d'entrée, son rôle de capitaine. Et je pense qu'il est encore en train de le travailler. Et que, voilà. Maintenant, moi, je peux pas répondre à cette question. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est capable? Aurore des Zizou a été capitaine. Ben, Duga pourra en parler mieux que moi, puisque moi, je l'ai connu que simple joueur.
Duga l'a connu capitaine.
Même s'il avait pris de l'assurance, c'était pas une tribune dans les vestiaires, je pense
non,
pas.
Non, c'est sûr, je te rassure.
Voilà, donc lui, c'était capitaine de par l'exemple, de par ce qu'il dégageait.
Parce qu'on attend d'un capitaine.
Oui, il n'y a pas qu'une forme de capitaine. Ouais. Et tu peux être juste un très bon capitaine parce que tout ce que tu fais sur le terrain tire tes partenaires vers le haut. Et ça suffit des fois, tu vois. Et puis il y en a qui vont piailler dans le vestiaire. Voilà, donc ça, je sais pas.
Duga.
Non mais je suis assez choqué. Je sais pas ce qui s'est passé, Jérôme, entre toi et Mbappé, mais je te trouve extrêmement dur, quoi. Sincèrement, tu lui reproches ce qu'il a dit sur M6, tu lui reproches là les journalistes qui lui posent des questions et qui répondent. Enfin, en gros, tu lui reproches tout, quoi. Tu le reproches tout.
Il fait partie de cette phrase.
Mais l'exercice de parler de ses partenaires en tant que capitaine, moi j'ai trouvé plutôt rigolo, plutôt sympa. Il porte des petits pics, des petits jugements. L'interview avec M6, il rigole avec les journalistes. Que Mbappé s'aime bien, mais écoute, toi aussi tu t'aimes bien, moi aussi je m'aime bien.
Oui, c'est vrai, mais il y a pas de problème.
Ouais. Non mais c'est pour ça que que tu me dises. Tu vois, alors moi Mbappé, je trouve que c'est un bon capitaine. Alors je te dis pas qu'il est parfait. Mais quand je vois la réaction de ses partenaires, écoute, ça m'a l'air d'être plutôt un bon capitaine. Chaque fois qu'il a fallu défendre le bout de gras collectif au nom de ses partenaires, je trouve qu'il a su monter au créneau pour défendre ses partenaires. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Alors après, j'entends aussi que tout n'est pas parfait. Moi, quand il s'exprime, personnellement, alors qu'il est capitaine, j'aime moins. Mais de là à dire aujourd'hui que Mbappé n'est pas un bon capitaine, il en est hors de question. Moi, j'ai envie de te dire.
Qui a dit ça? J'ai pas dit ça, moi.
Non, mais tu parles que des trucs négatifs. Tu dis à aucun moment.
Non, je parle de sa com, c'est tout. Moi, je parle pas sur le terrain, je suis comme vous, moi, en fait.
Mais Jérôme, tu dis de ta com, elle est préparée.
La com, pour moi, c'est lunaire ce qu'il raconte.
Mais ils font tout ça.
Mais du gars, ils font pas tout ça. Regarde, je te prends l'exemple juste de ce qu'il dit sur Nasser El Khelaïfi. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu quand il est parti du PSG, la procédure, le ceci, cela, et Nasser, fait à l'envers et tout ça. Là, maintenant, tu l'entends. Nasser, c'est fantastique ce qu'il lui a apporté. C'est grâce
mais
à Nasser.
Mais ce sera bibouché, et alors
tu vas pas lui reprocher.
Ils ont essayé de le dénigrer sur les réseaux, ils ont essayé de faire plein de choses aussi. Ils ont le droit de se rabibocher. Tu vas lui reprocher ça. Ça fait 3 ans maintenant qu'il est parti de Paris.
Non, mais moi je le reproche rien. Moi, du gars, je le reproche rien. Je dis juste que quand tu dis que t'es objectif, t'es spontané, que rien n'est calculé parce qu'il parle très bien et tout ça. Le cas en fait.
Mais tous ils font ça, ils se font
tous passer. Mais j'en ai rien à faire. Moi je parle de Kylian Mbappé. Je te parle pas des autres, du gars.
Toi non plus tu l'es pas.
Pourquoi tu vas me comparer à Kylian Mbappé?
Parce que tout le monde est comme ça.
Mais c'est pas la question. Je me compare pas à Kylian Mbappé. Je te dis juste que ça comme je trouve lunaire, c'est tout. Voilà, si vous aimez bien, tant mieux.
Il y a quoi de lumière dans sa com?
Je trouve tout ce qu'il met en place, c'est toujours sa petite personne
qui met en place. Parle-moi de quelque chose de concret.
Mais tu sens bien qu'il y a du calcul dans ses paroles.
Mais je pose pas la question à toi, je pose la question à Jérôme.
Mais qu'est-ce qu'il met en place? Moi, ce que j'attends de Kylian Mbappé, c'est qu'il ait un rôle, comme tu dis, exemplaire de capitaine. C'est-à-dire que sur le terrain, il emmène les autres et il est bon. C'est tout ce qu'on lui demande. Après, donneur de leçons
Dis-moi que tu estimes que ses positions personnelles ne conviennent pas à un capitaine d'équipe. Je l'entends. Dis-moi qu'il ne fait pas assez d'efforts sur le terrain qu'en tant que capitaine. Que parce qu'il dit de Nasser il y a 3 ans.
C'est un exemple. Là, je te parle de tout ce qu'il raconte. Pour moi, c'est lunaire. Quand il te dit lui, il va falloir que je lui permette de se développer, de prendre de l'expérience.
Tous les capitaines n'ont peut-être pas été assez en équipe de France.
Mais par contre,
les compétitions font ce jeu avec l'équipe. Ils le font tous. Ça a toujours existé. Ouais. Chacun parle de son équipe, ou le Parisien, ou l'équipe, je ne sais plus. Ils le font tous. Voilà. Et Mbappé, il rigole, il est sympa avec ses partenaires, il est petit pique, des machins,
ça
et
m'avait
même
échappé,
ça, c'est ridicule.
Ça m'avait échappé qu'ils le faisaient tous. Voilà. Ah ouais. Mais bon, s'ils le font tous, il n'y a pas de problème. Par contre, ils ne font pas tous les mêmes interviews de Kylian Mbappé. Non, mais attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est méchant. Moi, je ne l'attends pas là. Et je trouve que c'est too much. C'est tout. Après, c'est mon avis.
Quand c'est mal, quand c'est bien, c'est bien.
Et c'est pas pour ça que c'est un mauvais capitaine. C'est pour ça qu'on a fait le débat.
Ça, c'est clair.
Est-ce qu'il est devenu un bon capitaine?
Moi, j'irais même pas juger ça. La preuve, c'est ce que je viens de dire. Moi, j'ai rien contre lui. C'est que dans le vestiaire, j'y suis pas. Et tous les joueurs, tous ses coéquipiers qui parlent de lui, en parlant bien. Ouais. Bah écoute, ça veut dire que ils se reconnaissent à travers Kylian Mbappé, capitaine.
Il
n'y a pas de souci.
Qu'il a 30 sélections de plus que le deuxième plus capé qui est N'Golo Kanté. Donc lui, il a une expérience en équipe de France que les autres n'ont pas dans cette équipe. Le direct, Espagne-Cap-Vert, 66 minutes de jeu, Edgar Grollo.
Et 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert. Attention avec Llorente qui rentre dans la surface de réparation. Le petit cafouillage des Espagnols qui n'y arrivent toujours pas et qui bute de plus en plus, j'ai envie de dire, sur cette défense du Cap-Vert. Même si là, Lopez Cabral a été obligé de mettre ce ballon en corner. Évidemment, les Cap-Verdiens reculent aussi de plus en plus. Mais ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas encaissé une occasion majeure dans ce match. 67e minute de jeu, 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert. Et l'Espagne qui n'a toujours pas fait de changement.
La suite de ce match dans un instant sur RMC, du suspense à Atlanta entre l'Espagne et le Cap-Vert. On va bien vivre cette seconde période avec Edgar Grollo et puis on parlera du Brésil dans la VAR. Est-ce qu'il faut enterrer le Brésil dans cette Coupe du Monde? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
19h34 sur RMC, on est dans la dernière demi-heure de Rotten sans flamme de ce lundi soir. On lance cette semaine incroyable de Coupe du Monde. Demain, France-Sénégal, on va se régaler. L'entrée en lice de l'équipe de France. Ouais, avec un grand Kylian Mbappé, un grand capitaine. Donc je pense qu'on va y arriver. On est avec Christophe Dugarry, on est avec Eric Dimeco.
Je sais pas ce qui s'est passé entre vous. J'aimerais être une petite souris. Non. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, si, s'il y a le truc. Maintenant,
alors,
je te connais.
Question, c'est...
Je te connais un peu maintenant. Non.
La question, c'est quelle est la relation la plus tendue, Jérôme Mbappé ou Duga Deschamps?
Non, mais
des fois, je te promets, des fois, j'ai l'impression que c'est plus tendu entre Jérôme et Mbappé que moi et Dédé.
Oh, pas sûr.
Oui, mais. Non, mais non, le problème, c'est que là, non, mais moi, là j'aimerais que Jérôme nous explique que ce...
Non, mais je voulais me rabibocher avec lui, mais j'étais en Azerbaïdjan, mais il avait décidé de pas y aller.
Ah oui, c'est voilà.
Mais non, mais je me souviens, tu étais cul et chemise avec lui et tout, et de goût, ça a changé, je comprends pas ce qui s'est passé.
Puis après, il y a eu un match de l'équipe de France aussi où, malheureusement, il est parti en Suède.
Et il fait pas tout bien, on a pas dit qu'il faisait tout bien. Ouais.
Non, mais moi, je sais bien. Mais pour un bon capitaine, c'est normal.
Mais moi, je sais pas ce qui s'est passé du coup, parce que tu étais cul et chemise avec lui.
Comme diraient nos confrères de BFM TV,
moi, ça faisait
priorité au direct.
Ça fait quelques années, quoi.
Star de la Coupe du Monde est entrée sur le terrain. Espagne, Cap-Vert, 0-0. Et la vedette espagnole est rentrée.
Oh, Ferran Torres, la frappe de Ferran Torres, elle a été contrée dans la surface de réparation. Mais Lamine Yamal, qui est rentré il y a quelques secondes et qui a tout changé, messieurs. Il a tout changé au niveau de l'ambiance. Déjà, on a fait x10, x100 dans le stade d'Atlanta. Et il a tout changé déjà sur l'aile droite de l'Espagne, puisque je vous dis, sa première touche de balle, ou presque, il a dribblé deux joueurs du Cap-Vert. Il a tout tenté. Il a commencé à dynamiter cette aile droite. Attention, il lance en profondeur. La superbe intervention derrière de Dini Borges, qui fait un énorme match et qui a empêché Lamine Yamal. Mais on sent, messieurs, que l'entrée de Lamine Yamal a donné un coup de boost aux Espagnols, a changé la physionomie de ce match. Merino, le joueur d'Arsenal, est rentré aussi. Il a remplacé Fabian Ruiz alors que Lamine Yamal a remplacé Gavi.
Pour tous ceux qui veulent se régaler demain, je rappelle qu'on est en direct de la brasserie Flora dans le 9e, sur les grands boulevards à Paris. Demain, Souleymane Diawara, international sénégalais, sera avec nous le jour de France-Sénégal. Donc venez pour régaler avec nous.
Le pauvre, il va
18h-20h. L'affiche du soir.
Il va pas pouvoir lire ses fiches tellement.
Ah ouais, c'est sûr. L'affiche du soir, c'est Belgique-Égypte. On va retrouver tout de suite Xavier Grimaud qui est à Seattle. Salut Xavier.
Salut Benoît. Salut Jérôme.
Salut Xavier.
Salut tout le monde.
Ah, ça change de la Bretagne.
Ah ouais, là c'est autre chose. Hein. T'as vu ça?
Ah, c'est un peu plus grand, ouais. Ouais.
T'as croisé des supporters belges en allant au stade, hein, Xavier?
Exactement. Donc le match se passe au Lumenfield de Seattle. On va en reparler dans un instant. Mais effectivement, déjà beaucoup de monde autour du stade. Beaucoup de maillots égyptiens floqués, évidemment. Mohamed Salah, hein, c'est une évidence. Et beaucoup de Belges également. Écoutez, ils sont chauds, même si il est tôt ici. Il est que 10h30, 10h37 exactement, heure locale. Écoutez un peu les supporters.
On est prêts, on est chaud patate là.
On va gagner, on va prendre cette Coupe du Monde.
Légèrement, légèrement, on est bouillant.
Très bouillant, et là il est 9h30, donc il faut se chauffer. Mais d'ici midi, on sera très chaud.
Et puis vous êtes confiant.
C'est sûr qu'on est confiant, bientôt une étoile ici. But de Nathan N'Goy, on s'y attend pas. Ouais. Un petit but de Kevin De Bruyne, et un petit but de Doku.
On va gagner, c'est sûr.
Voilà pour les pronostics. Vous avez entendu les Belges notamment. J'ai eu une petite Égyptienne aussi qui me pronostiquait 10-1, 10 buts Salah. Donc moi je signe, hein. Évidemment, serait du grand spectacle. Les Belges qui ont privatisé, il y a un énorme bar là, deux pas du stade, le Victoria Yards. Et il y a de la musique et il y a énormément de monde avec un grand drapeau The Belgian Devils qui sont en place. Donc le stade qui se remplit tranquillement ici, le Lumenfield. Okay.
C'est une sorte de Casa Dimeco local, quoi, à Seattle. Ok. Parlons du Lumenfield. Donc ce stade qui n'a pas encore accueilli de rencontre de Coupe du Monde, il est très tôt à Seattle. C'est l'un des stades les plus bruyants du pays, hein, Xavier.
Ben oui, il est réputé comme tel. Alors déjà, architecturalement, c'est quand même un petit bijou. Il est très étonnant, puisqu'il est un peu en forme de U, en forme de fer à cheval. Et il y a une tribune qui est toute petite. Ils ont juste fait une pyramide de 50 mètres de haut, ce qui fait qu'on a une vue magnifique sur les buildings, sur la skyline de Seattle. Franchement, c'est superbe. Les tribunes sont assez à pic et a priori, le son rebondit un peu vers la pelouse comme des vagues, ce qui fait qu'en NFL notamment, ce sont les Seattle Seahawks qui jouent ici, on enregistre des records de décibels, plus de 130 décibels, le seuil douloureux a priori pour les oreilles, donc il faut faire attention, il y aura peut-être moins de monde en configuration soccer, en configuration Coupe du Monde, mais franchement il vaut le détour. C'est une magnifique ville, Seattle, et le stade a une belle réputation, une réputation à tenir donc pour cette première rencontre. Il y aura 6 matchs ici, et la première c'est donc Belgique-Égypte. On verra si le stade est plein, mais ça se remplit bien déjà.
Xavier, merci. 21h, cette affiche entre la Belgique et l'Égypte. Priorité au direct, je le disais. On parlera du Brésil, a priori, demain ou dans la semaine. Mais on va se concentrer sur ce match entre l'Espagne et le Cap-Vert. 78 minutes de jeu, l'Espagne n'y arrive pas pour l'instant, Edgar.
Ah, vous venez au bon moment. Vous venez au bon moment. On va vivre cette fin de match parce que là, les Espagnols, ils poussent. On sent qu'il y a quelque chose à faire. Les supporters sont debout en tribune. Et Lamine Yamal, 18 ans, premier match de Coupe du Monde, l'impact qu'il a sur la confiance de ses coéquipiers, je pense que dans l'histoire de la Coupe du Monde, il y en a très très peu des joueurs qui à 18 ans avaient autant d'impact dès leur rentrée comme ça, même. Et surtout on voit la confiance qu'il donne à ses coéquipiers. Effectivement, il y a Boisy, il y a Ayari hier, 22 ans de la Suède, qui fait un énorme match aussi. C'est vrai. Une petite révélation, mais bon, on est très loin de Lamine Yamal qui va tirer ce corner de la droite vers la gauche et tire au premier poteau. C'est repoussé par une tête, ça va revenir avec Koukouria devant la surface de réparation. Il a remise Vosinha qui essaye de sortir des deux points, ça revient sur la tête de Ferran Torres. On est sur le côté gauche maintenant avec Oyarzabal. Le ballon piqué en dessus et c'est repoussé par Roberto Lopez, parce que là Vosinha il avait été lobé et il a fallu être vigilant. L'occasion pour l'Espagne. À noter que le coach Boubista, le coach du Cap-Vert, est malin. Il a sorti son latéral gauche qui avait un carton jaune dès que Lamine Yamal est rentré, pour faire rentrer João Paulo, qui va donc avoir la lourde tâche de défendre sur Lamine Yamal. Marcos Llorente devant la surface de réparation sur le côté droit avec Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va tenter de dribbler Semedo. Il revient sur la droite avec Oyarzabal. Lamine Yamal toujours. Lamine Yamal, Llorente. On fait tourner côté espagnol, mais les Cap-Verdiens peuvent déjà être fiers de leur match. Hein. Ils ont été extrêmement solides, les joueurs du Cap-Vert. Rodri sur le côté gauche. Koukouria avec Koubarsi. On est à une dizaine de mètres de cette surface de réparation avec Lamine Yamal. Une nouvelle fois sur le côté droit devant Semedo. Il a tenté un centre. Ça a été repoussé tout de suite vers Koubarsi, mais la densité, messieurs, dans la surface de réparation, c'est très très compliqué de trouver des solutions côté espagnol. Peut-être là avec Lamine Yamal qui a été trouvé dans la surface de réparation. Le centre, il est dévié par João Paulo et ça va faire un corner pour l'Espagne. 0-0, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire.
Allez, on va suivre le corner, ensuite on marquera une pause et on suivra cette fin de match en intégralité. Le favori espagnol accroché pour l'instant par le Cap-Vert à Atlanta. Il reste 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Le corner à venir pour les Espagnols, Edgar.
Ouais, avec un changement à venir côté Roja, avec la sortie de Ferran Torres et l'entrée de Dani Olmo avec son numéro 10. Et oui, ce n'est pas Lamine Yamal, le numéro 10 de cette équipe. Lamine Yamal qui va pouvoir tirer ce corner. Non, changement de décision, ou alors ils ont pris trop de temps peut-être pour tirer ce corner. Et donc, c'est un 6 mètres finalement pour le Cap-Vert. Il reste un peu moins de 10 minutes. 0-0.
Bon, et ben écoute, on marque une pause et on revient pour les 10 dernières minutes de cette Espagne-Cap-Vert 0-0 pour le moment. On rappelle que c'est le groupe H, les deux autres équipes qui s'affronteront un peu plus tard, Arabie Saoudite, Uruguay. À tout de suite sur
RMC, 18h-20h, Roten sans flamme, intégrale Coupe du Monde.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
19h46 sur AMC, les 10 dernières minutes de Roten sans flamme. Et déjà, les 10 dernières minutes, elle est passée vite cette émission, avant une émission demain exceptionnelle de Roten sans flamme. L'avant-match de France-Sénégal, c'est demain l'entrée en lice de l'équipe de France. Tout le pays va vivre à la seconde de Roten sans flamme. Et ça, j'en suis fier. Dans tous les cas, demain, on va péter les scores. Et vous allez tout savoir sur ce match. Mais on finit l'émission en beauté avec Eric Dimeco, avec Christophe Dugarry et avec Benoît Boutron. On est à 5 minutes de la fin du match des favoris de la Coupe du Monde.
C'est la surprise.
Et pour l'instant,
raison,
ils n'y arrivent pas.
0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert, la fin de match en intégralité avec Jérôme Breton et Eric Dimeco.
C'est solide. Hein.
Christophe Dugarry, Edgar Groslot en direct d'Atlanta, Edgar.
86e minute, 0-0 entre l'Espagne et le Cap-Vert avec Koukouria. Les Espagnols qui continuent de pousser, cette fois-ci sur le côté gauche. On va revenir avec Laporte, Koubarsi. C'est une équipe de handball hein, depuis 10-15 minutes, depuis l'entrée de Lamine Yamal. On s'est vraiment collé à la surface de réparation du Cap-Vert. Le voilà, Lamine Yamal sur le côté droit face à Semedo. Il a centré et son centre a été contré par Willy Semedo qui fait une très très bonne entrée. Il est souvent pris à deux depuis son arrivée sur le terrain, Lamine Yamal, même si là il fait pas l'effort pour récupérer ce ballon. Semedo qui va pouvoir partir en contre-attaque. Il n'y a pas eu d'occasion pour le Cap-Vert dans ce match. Il y a eu quelques excursions dans la moitié de terrain espagnol, mais jamais d'occasion franche. Unai Simon qui a passé une soirée, mais pas du tout, puisqu'il ce match a été débuté à midi heure locale ici à Atlanta, horaire très particulier. On rappelle qu'il n'y a pas vraiment de question de chaleur ici, puisque le stade est climatisé, et pourtant on a eu deux pauses fraîcheurs comme à tous les matchs de cette compétition. Et on va pousser côté espagnol avec la sortie de Rodri et l'entrée de Nico Williams. Cette fois-ci, on a les deux détonateurs, Lamine Yamal et Nico Williams, grave, sur le terrain.
C'est fou de les faire rentrer aussi tard.
C'est qu'ils reviennent rapidement de blessure. Donc, je pense qu'il n'est même pas prévu de les faire jouer aujourd'hui, d'ailleurs.
Je pense que l'entraîneur, il est satisfait du résultat aussi.
Il avait prévu de les mettre sur le banc, mais de les faire jouer si le match le nécessitait. Il l'avait précisé, et là le match le nécessite, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est pas forcément Rodri qui va taper.
Il a dit sur la fin de ce match. Il s'est dit, ça l'a gêné, il a dit on va se mettre deuxième favori.
Non mais du coup on va faire un débat, c'est une catastrophe pour l'Espagne.
Bah oui, est-ce que c'est une vraie contre-performance?
Attention à la minima à l'extérieur du pied vers Daniel Mo. Il est parfait ce ballon, Daniel Mo dans la surface de réparation, la reprise de Yarzabal. Il a été contré in extremis. Quelle occasion pour l'Espagne. Et là c'est Roberto Lopez qui est venu se jeter devant le milieu offensif du FC Barcelone pour sauver. Mais alors là l'extérieur du pied de Lamine Yamal pour Daniel Olmo, c'était magnifique.
Quel joueur, magnifique. C'est toujours ballon d'or, Yamal.
Ouais, blague à part, Jérôme, t'es surpris de voir l'Espagne accrochée comme ça par le Cap-Vert?
Oui, mais là ils ont fait rentrer, alors cause de blessure, mais les deux détonateurs. Yamal, depuis qu'il est rentré, c'est autre chose quand même dans l'animation offensive. Le problème, c'est que les autres, ils ont pas pris leurs responsabilités. Et ça a été une attaque défense pendant 90 minutes. Mais pas de... Alors, il y a eu quelques occasions quand même. Le gardien capverdien, il a fait quelques arrêts intéressants. Mais c'est pas non plus... tu vois, on va pas lui mettre.
Il a fait des très beaux arrêts, mais il a pas non plus. Ça a pas été meilleur sur le match. C'est-à-dire qu'il a eu beaucoup d'arrêts à faire, mais parce que les finitions, c'est pas bon aussi.
Excusez-moi les gars, mais je pense que c'est aussi pour ça que l'équipe de France est plus favorite que l'Espagne. C'est-à-dire l'équipe d'Espagne, elle a un 11, un 12, un 13, pas mal. Ça, et après, sur les remplaçants, je trouve que c'est un peu limité, quoi. L'équipe de France, je trouve que l'effectif, il est beaucoup plus important. Il y a un bord de touche bien meilleur que celui de l'Espagne, quoi.
Offensivement, oui. Pas le reste de l'équipe, mais offensivement.
Ah bah ouais,
mais
le terrain, c'est costaud, quand même.
Là, ils ont marqué des buts, que je sache.
Oui,
non, mais De La Fuente, on pourra en reparler, mais De La Fuente, je comprends pas trop sa compo de départ avec Gavi sur le côté, surtout qu'il a construit cet effectif pour avoir des ailiers. Et là, il choisit de mettre un milieu de terrain qui, certes, peut jouer à ce poste-là, mais qui, on l'a vu sur ce match, était pas très très à l'aise et a très peu apporté Gavi. Attention, l'occasion peut-être pour le Cap-Vert en contre-attaque. Les Cap-Verdiens qui partent sur le côté gauche, on en a la surface de réparation, peut-être le centre. Non, ils sont revenus les joueurs espagnols, et la frappe lointaine dernière qui ne donne rien. João Polo, il a tenté l'impossible là. C'était très très compliqué, mais ça a été dévié. Pina a été dévié, et ça va faire un corner pour le Cap-Vert ici.
On sait jamais.
Et si c'est le premier corner du match pour le Cap-Vert, alors qu'il y en a eu 9 en face.
Allez.
Ce serait quand même énorme.
Ah bah, le Japon l'a fait hier contre les Pays-Bas, sur corner, alors que c'était la grande force des Néerlandais.
Eric, Nicolas Ledru, notre producteur, me dit la golden. C'est bon ça. Allez, le corner à Cap-Verdien contre l'Espagne.
Qui va tirer ce corner, c'est tiré le Japon la tête. Quelle occasion, il l'a mise directement dans les bras d'Unai Simon, Dini Borges qui était monté plus haut que tout le monde. Et attention derrière, ça repart avec Nico Williams qui va tenter un dribble très long sur Steven Moreira, tiens, l'ancien de Ligue 1, qu'on a peu vu dans ce match, mais qui a été assez solide. C'est vrai qu'il y a plusieurs joueurs qu'on connaît en France dans cette équipe capverdienne, avec Steven Moreira qui a joué à Rennes, à Lorient, à Toulouse, avec Ryan Mendes, le capitaine ancien du Havre et du LOSC. Et puis sur le banc, il y a
Costa,
notamment Logan Costa, exactement. Logan Costa qui initialement est la star de cette sélection aujourd'hui, puisqu'il joue à Villarreal, mais qui revient d'une saison longue de blessures. Il est sur le banc. Attention, le centre de Cucurella, ça a été mis en corner cette fois-ci pour l'Espagne. On est rentré dans le temps additionnel, il y a 5 minutes en plus, et donc un peu plus de 4 minutes à jouer.
Ça marche pas dans ce sens-là.
Corner pour l'Espagne.
Et on se faisait la réflexion ici en plateau, du gars, le pied gauche de Yamal, depuis Jérôme, on a rarement vu ça, hein, l'extérieur comme ça, la qualité de passe.
À l'extérieur, surtout l'extérieur.
Ça fait un moment qu'on n'a pas vu un pied gauche aussi fort.
Ah oui.
Ah bah ça, c'est la grande force
des gauchers. Le centre de Pedri au premier poteau, c'est repoussé.
Pas, quoi, pas les défenseurs. Hein.
Moi, j'étais attaquant.
Ouais.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai. T'es vite trop passé derrière.
Allez, petit Cruyff. Allez, corner.
Allez, le ballon qui est revenu rapidement dans les pieds espagnols avec Pedri. Koubarsi peut-être pour une frappe lointaine. Il a hésité, finalement il décale vers Lamine Yamal. Lamine Yamal sur son pied gauche, la frappe elle a été déviée. Elle a été déviée d'abord par un Caverdien, puis par Oyarzabal. Et ça va repartir en contre-attaque maintenant avec Nuno Da Costa qui essaye de trouver son coéquipier sur le côté droit. C'était Semedo qui était sorti de position. Et finalement, le ballon qui est contré pour Nuno Da Costa et on arrête cette contre-attaque côté Caverdien. Ça revient rapidement dans les pieds de Lamine Yamal et là il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre pour les Espagnols puisqu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans le temps additionnel. Kukurea sur le côté gauche, Kukurea qui revient vers Pedri. Pedri bien pris une nouvelle fois par Willy Semedo. Alors lui il fait une superbe entrée sur le plan défensif. Offensivement il n'a pas touché un ballon, mais défensivement il a posé de sacrés problèmes aux Espagnols. Koubarsi devant la surface de réparation, il décale sur Yamal. Yamal face à João Paulo, il n'est pas passé mais il va pouvoir conserver ce ballon. La bonne défense de João Paulo qui va de nouveau devoir gérer un contre un face à Lamine Yamal. Le ballon qui est perdu, Semedo qui récupère et Da Costa qui peut partir en contre-attaque. Il est absolument tout seul et la faute, la grosse faute de Pedri qui va écoper d'un carton jaune parce que là les Capverdiens lui avaient fait peur et Pedri qui est obligé peut-être de faire cette faute non pas d'intelligence mais de frustration, j'ai l'impression, parce qu'il y avait quand même plusieurs Espagnols qui étaient revenu. Et là, Pedri qui va terminer ce match avec un carton jaune.
Edgar, 19h53 sur RMC, Rotten sans flamme en direct de la brasserie Flora dans le 9e arrondissement de
Paris. Espagne au bord de l'élimination.
L'entrée en lice des favoris espagnols, 0-0 face au Cap Vert.
Ils sont plus favoris.
Du coup, il n'y a pas le quiz du coup.
Didier, il est en train de se dire bon, écoute, comment je vais faire
Nous, on va perdre contre le Sénégal
pour pas avoir le statut de favori.
Oh, il a un boulevard. Attention, Lamine Yamal qui trouve Daniel Mo. Lamine Yamal sur le côté droit face à au polo, il décale, c'est mal joué, c'est très mal joué de la part des Espagnols. Il a cherché Merino mais il avait perdu ce ballon. Semedo face à Llorente, on est dans la moitié de terrain des Caverdiens. Les Caverdiens qui arrivent à sortir ce ballon avec Arcanjo qui arrive à conserver la balle face à Merino. Attention, il est passé en plus face au joueur d'Arsenal. Il arrive à trouver Ryan Mendes sur le côté droit. Ryan Mendes, Pedri qui va pouvoir frapper de loin. Alors là, on l'oublie, c'était pas Ryan Mendes Prime, c'était pas le Ryan Mendes du LOSC là, c'était le Ryan Mendes de 36 ans qui forcément après 94 minutes sur le terrain souffle un peu parce qu'il a complètement raté sa frappe.
Il a eu raison de la tenter hein. En tout cas il était bien placé, mais c'est vrai que le geste technique n'a pas été assuré jusqu'au bout. Bon, on est à la 94e minute.
C'est peut-être la dernière pour l'Espagne d'ailleurs, Edgar. Dernière opportunité.
Il reste 50 secondes à jouer avec Pedri, Daniel Olmo. Tous les joueurs du Cap Vert sont derrière le ballon, devant leur surface de réparation. Lamine Yamal, le centre de la droite vers Merino. Semedo, attention à la perte de balle dangereuse. Lamine Yamal dans la surface de réparation. La frappe est déviée par João Paulo et ça va partir directement en corner pour les joueurs espagnols. Il reste 30 secondes. C'est peut-être la dernière balle, la dernière chance pour les Espagnols d'aller chercher 3 points dans ce groupe H. C'est la Golden, exactement. Et Lamine Yamal qui va jouer ce corner. Évidemment, il y a beaucoup de monde dans cette surface de réparation avec la porte qui est montée, notamment le ballon sur la tête de Yarzabal. La déviation, deuxième poteau. J'ai l'impression qu'il a hésité entre tenter de marquer et la déviation, la passe. Et finalement, ça fait un entre-deux qui est parti en 6 mètres. Et là, les supporters capverdiens dans le stade, ils sont en folie. Et le match est terminé. L'exploit incroyable du Cap Vert pour le premier match de son histoire en Coupe du Monde. 0-0 face aux favoris espagnols.
Les applaudissements du Flora pour les commentaires d'Edgar Grolot et surtout pour la performance capverdienne. 0-0 face à l'Espagne, deuxième du classement FIFA, favori de la Coupe du Monde. Et ben voilà, ça va être nous les favoris, Eric Dimeco. Crac.
Mais il ne faut pas qu'on gagne demain, surtout pas.
Non,
on laisse ça aux Marocains. Vous êtes favoris.
Dugas, t'es surpris de voir cette contre-perf espagnole?
Oui, mais évidemment, celui qui te dit non, c'est un sacré accro de la part de l'équipe espagnole. Alors ça remet rien en question, mais c'est une sacrée contre-performance. Un chat, ça c'est clair.
Merci Edgar Grolot.
Le Cap Vert, pour remettre en contexte, c'est un pays, petit archipel au l'ouest de l'Afrique, des îles volcaniques, 500 000 habitants, et ils viennent de faire match nul avec l'Espagne pour leur premier match de leur histoire en Coupe du Monde. C'est un exploit monumental pour eux.
C'est la magie de la Coupe du Monde. Merci Edgar, bonne soirée à toi.
La Suisse a été ridicule aussi
contre le Qatar.
En prenant un but à la fin contre le Qatar. Mais je crois que celle-là, elle est encore plus grosse hein, pour les Espagnols. Non, mais l'écart entre les deux nations, là on parle de...
Ils ont fait une Coupe du Monde il y a 4 ans, eux, ils débutent.
Oui, et puis Eric, ce que je veux dire, c'est que tout le monde...
500 000 habitants.
On cherchait le jeu des favoris, on a dit l'Espagne parce qu'ils ont gagné le dernier Euro.
Attention. Je le répète, la dernière fois, quand tu regardes la première prestation des Argentins contre la...
Non, arrête, Eric.
Quoi?
Ça y est, on commence à broder la troisième étoile. Nous, ça y est, on y croit. Là, ça y est, l'Espagne est accrochée.
Non, tu dis quand l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite.
Oui, quand tu rentres leur premier match, tu pouvais pas dire qu'ils allaient gagner le monde.
Ça, c'est vrai.
Tu peux pas tirer dans une main d'un premier match.
On est pas malheureux de les voir accrochés quand même.
Rappelle-toi de ce match. C'est un hold-up et tant mieux pour l'Arabie Saoudite. Ils avaient réussi leur coup. Mais l'Argentine n'avait pas été fantomatique. Là, franchement, j'ai l'impression...
Si l'équipe de France gagne ce soir, ça sera la même chose. Enfin, il y aura
demain,
pas
de scandale. Demain,
dira, bon, mais, demain, pardon, voilà, ce sera pas donc...
Ouais, mais c'est le Sénégal, quand même.
Oui, c'est le Sénégal. Ah,
c'est différent, ça change. C'est vrai. Merci à Christophe Dugarry, merci à Eric Dimeco.
Merci
Jérôme. Dans un instant, c'est l'After Live en direct de New York avec l'équipe de l'After, justement.
Demain,
on remercie le public du Brass, la Brasserie Flora, dans le 9e arrondissement de Paris.
C'est chaud.
Et ce soir, c'est ce match entre la Belgique et l'Égypte. On revient demain pour France-Sénégal, Jérôme.
Demain, pour France-Sénégal, c'est dans Rotten sans flamme que ça se passe ici au Flora. On sera là, dans le 9e arrondissement, sur les grands boulevards à Paris. On se régale. Demain, à 18h, on prend l'antenne. On la lâche plus jusqu'au match de l'équipe de France. On va vous faire monter tout ça. Ça va être génial. À demain, 18h. Je vous embrasse.
RMC jusqu'à 20h, Rotten sans flamme.
Vous avez aimé l'émission ? Écoutez tout de suite ce que vous n'avez pas entendu sur RMC. Écoutez le carnet de notes.